All right, here we go.
Donc, il n'y aura pas de transition. Vous savez qu'on a Chris Turner qui suit mes amants. J'aimerais vous remercier, John, pour votre présentation qui aborde le problème de la gigatonne. J'aimerais remercier l'École Polytechnique Université McGill pour m'avoir invité à participer à ce symposium, mais j'aimerais remercier Lorne Trottier. Ce qui nous apporte à penser aux enjeux du 21e siècle, afin de passer de la voie non durable vers la voie durable. Et nous devons consacrer nos esprits les plus talentueux sur ces questions. Et comment ferons-nous ce changement? Et j'aimerais indiquer clairement que quand je parle d'urbain, je parle de tout ce qui n'est pas la campagne. Non. Pourquoi le bon urbain est si important? Nous devons avoir des ingénieurs talentueux qui s'attaquent à ce problème pour passer d'un mode non durable à un mode durable. Et ça vaut la peine de prendre une certaine pause et se dire que nous sommes rendus dans cette voie non durable car nous avons embauché les meilleurs esprits dans cette voie non durable. Mais c'est pas parce qu'on l'a fait volontairement il y a 150 ans en disant aux ingénieurs de créer des usines au charbon et autres énergies polluantes. Mais non, nous sommes plutôt tombés en amour avec une histoire de survie. Pour une bonne raison, nous avons créé une demande qui a été assuré par ces technologies qui nous polluent. Mais j'aimerais commencer par l'histoire. Surtout si je parle à un auditoire composé de gens d'affaires, c'est une proposition de valeur. Et je vais vous parler de la chose que j'essaie de vous vendre et comment ce service vous sera si utile. Ce qu'il faut faire, c'est trouver cette bonne proposition de valeur pour les villes. Avant de songer à la façon de résoudre les problèmes de gigatonnes et de mégawatts, il faut trouver cette histoire qui convainc les personnes. D'ici 2050, la plus grande majorité du monde, c'est-à-dire 80% de la population vivra dans les villes. Donc, nous devons résoudre les problèmes pour les lieux où nous vivons, c'est-à-dire les villes. Quelle était la proportion de valeur qui a mené à cette ville moderne? Donc, je vais passer à travers les étapes du développement des villes modernes. Voici la première proportion de valeur. Voici une image au tournant du 20e siècle à New York. C'était la proportion de valeur qui a rendu l'Amérique du Nord la région la plus prospère du monde et ce qui a rendu nos villes des endroits si attrayants. Et c'était une scène peut-être dense et un peu sale, mais les personnes voulaient s'y trouver parce qu'il y avait une proportion de valeur dans cette ville qui ne peut pas être trouvée ailleurs. Peu importe où on était sur la terre, on savait qu'on pouvait se rendre à un endroit ici et être prospère. Il y avait les chances de mobilité sociale, les opportunités économiques. Vous pouvez voir, il y a tant d'opportunités économiques ici que ça déborde. Les personnes déplacent des biens, il y a des commerçants. C'est une scène d'une ville vibrante, très prospère. Et pour la première phase de la croissance industrielle, c'était une très bonne proportion de valeur. Mais au fil du temps, les coûts ont dépassé les avantages. Les maladies se répandaient vite, la saleté est omniprésente. Et si vous lisez la description d'une ville du début du 20e siècle, c'était un endroit sale. Et même plus un. Et on a trouvé une autre proportion de valeur urbaine. Ça a pris un certain temps à se concrétiser, mais on peut le résumer ainsi. On veut avoir son propre espace, son espace vert, environnant, un endroit sécuritaire pour sa famille, une voiture qui procure une mobilité physique inimaginable. Tout le monde peut avoir son propre petit lopin de terre. On peut tous être roi de sa demeure dans ses petites rues de banlieue. Je crois que ça résume le design ultime de la fin du 20e siècle, le cul-de-sac qui apporte à la maison. Et ce qui était le summum de cette proposition de valeur urbaine. Elle a créé cette société de gaspillage pour vivre dans ce rêve qu'on appelle le rêve américain, ou peu importe le nom qu'on donne, pour faire partie de la classe moyenne prospère. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est la même chose qui est arrivée. Lorsque nous avons commencé le 21e siècle, c'est que la proportion de valeur de ce système présente plus d'inconvénients que d'avantages avec la pollution. Est-ce qu'on veut tous vivre dans des cul-de-sac avec des garages avec deux places de stationnement? Non. Les nouvelles générations veulent vivre à un endroit proche de leur lieu de travail, pas nécessairement avoir utilisé une voiture pour se rendre au travail. Ce qui nous apporte à la proposition de valeur pour les villes du Canada au 21e siècle. Et pour une ville comme Montréal, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait et qui a même été fait avant de se trouver à ce modèle de banlieue. On a encore les vieux os du modèle plus durable qui nécessite moins d'énergie pour le transport. Voici une artère du plateau Mont-Royal, pas très loin d'ici. Et surtout ici à Montréal, il y a des grands avantages. Il y a un des centres-villes les plus vibrants et qui présente un milieu de vie intéressant avec différents modes de transport et différents services publics. Sur l'île de Montréal, 46% des déplacements se font par transport en commun. 46% des personnes se déplacent par transport en commun. Alors, l'empreinte de carbone est beaucoup plus petite. Et dans certains cas, on peut regarder cette image et se dire, vous savez quoi, Montréal a déjà une partie du modèle établi. On a juste besoin d'améliorer sur les forces qui sont déjà présentes. Mais j'aimerais prendre une pause. Je revenais à l'image du modèle non durable. Et je vous explique comment Montréal se trouve dans la même situation que les autres villes d'Amérique du Nord. Voici l'image du problème. Moi, j'ai choisi l'exemple de Calgary, car personne ne va me reprocher de parler de ma propre ville natale. Voici le développement le plus récent de Calgary. Et ce n'est pas unique à Calgary, même si c'est plus visible à Calgary, car le paysage est si plat. Si on va au-delà de l'île de Montréal, si on regarde le paramètre de déplacement, comment qu'on peut répondre à nos besoins quotidiens en usant moins d'énergie, une des solutions, c'est de ne pas toujours avoir besoin de la voiture pour faire ses emplettes. Si on regarde les régions métropolitaines, la région métropolitaine de Calgary, 77% des citoyens doivent faire leur déplacement quotidien en voiture. Mais le chiffre pour la région métropolitaine de Montréal, c'est 70%. Chacune des villes canadiennes est confrontée au même problème de dépendance à la voiture et d'empreinte de carbone qui est beaucoup trop grande. Et ce n'est pas arrivé par accident, même si c'est devenu un cafouillis. Ce modèle servait à réaliser ce rêve. Et je vous explique comment le modèle est utilisé. Et cela revient à l'histoire, cette bonne vie que tout le monde cherche. Et une façon d'articuler cette histoire, c'est avec l'urbanisme, la façon dont on conçoit nos routes. Ici, c'est une artère de Calgary, mais à la base, c'est une rue publique pour l'utilisation publique. Et au cours du dernier siècle et demi, c'est la façon dont nous avons construit nos rues. À chaque jour, on a dit à chaque Canadien qui vit dans ces villes, la meilleure utilisation de ces infrastructures publiques ou ces rues publiques, c'est d'avoir un véhicule privé et de se rendre d'un lieu privé à un autre lieu privé en voiture. Nous l'avons fait dans toutes les 50 dernières années. À Deerfoot Trail, le Calgary d'où je viens, n'est pas arrivé par accident. Ces personnes font exactement ce que le récit leur disait de faire. Et ça s'est rendu à cette situation. Et ce n'est pas nécessairement dans un embouteillage. Et s'il y a un accident, un accrochage ou une voiture en panne, ça devient un vrai cafouiller. Comment peut-on résoudre le problème? On commence à le faire en reconnaissant à quel point le récit a envahi notre façon de concevoir les espaces publics. Je vais encore prendre l'exemple de Calgary, mais je ne pense pas que Calgary est la seule ville dans cette situation. C'est une conception insouciante autour de la voiture. Quel est l'impact négatif sur la qualité de vie? Et voilà pourquoi cette proposition de valeur échoue. Voici l'entrée principale de l'hôpital pour enfants de Calgary. L'hôpital pour enfants de Calgary est une belle infrastructure assez récente, construite avec un très grand budget. Lorsqu'on rentre dans ses portes, il y a des couloirs bien colorés, un grand piano pour les enfants, un bel aquarium. C'est un bel hôpital pour enfants. Mais dans le processus de construction de cette infrastructure de centaines de millions de dollars, et il n'y a personne dans les phases de conception qui s'est demandé qu'est-ce qui arrive lorsqu'un enfant aveugle, un enfant avec des problèmes de mobilité, ou même juste un enfant dans une poussette, quitte cette entrée principale et arrive dans le stationnement. Il s'agit d'un endroit très dangereux pour les enfants qui n'est pas dans une voiture. Et à aucun moment on se dit qu'est-ce qui arrive lorsqu'un enfant sort de la voiture pour se rendre à l'entrée principale. On a juste pensé à comment maximiser le nombre de stationnements, l'espace, et on voulait avoir un stationnement le plus économique. Même si ce ne sont pas des endroits accueillants, ce ne serait pas des endroits pas si pires pour un enfant en fauteuil roulant. Nous avons quand même mis des obstacles, car on pense que c'est plus important de dire où les voitures devraient se situer plutôt que de créer des espaces sécuritaires pour les enfants. Ça vous montre à quel point on a un état d'esprit centré sur les voitures et qui est très loin de réfléchir au bien-être des personnes. Il faut inverser cette histoire pour arriver à la belle proposition de valeur qui émerge en essayant de résoudre ce problème. Je commencerai en regardant ce qui serait les meilleures pratiques. Ici, c'est vraiment un des pires exemples, mais quels sont les beaux exemples de villes durables où il fait bon vivre? Il y a une des villes qui est souvent citée comme une des villes les plus durables. La voici, la ville de Copenhague, la capitale du Danemark. À Copenhague, pour vous donner un chiffre sur la durabilité, le résident moyen de Copenhague a une empreinte écologique 80% plus faible que le citadin moyen du Canada. Et ils ont aussi construit une des villes les plus vibrantes et les plus accueillantes au monde. Comment sont-ils parvenus à cet état? Le récit, car c'est Copenhague a trouvé la réponse avant les autres. L'histoire de Copenhague commence à la fin des années 50. Comme vieille capitale européenne, il y avait un problème de circulation de voitures au centre-ville. Et puisque cette ville avait été conçue au Moyen Âge, les voitures ont rapidement pris le dessus des rues. À la fin des années 50, comme on peut voir, les personnes sont entassées sur les petits trottoirs. On avait commencé à penser à bannir la circulation vélo puisque ça devenait un problème et bloquait les vélos bloquaient les voitures. Et Copenhague a décidé de faire l'inverse. Au lieu de tout dégager les voies pour les voitures, on a décidé d'empêcher la circulation aux voitures et redonner l'espace aux citoyens. En 1962, on a rendu les rues des voies piétonnières. Et en 1962, à Copenhague, même si la culture de voiture avait seulement 10 ou 15 ans depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour commencer à s'enraciner, il s'agissait d'une mesure très impopulaire. Et certains des commerçants pensaient que cela allait mener au désastre. Certains commerçants avaient fermé boutique car ils croyaient que leur commerce n'allait pas réussir si les personnes ne pouvaient pas s'y rendre en voiture. Les citoyens moyens de Copenhague ne pensaient pas que c'était une bonne idée. Le slogan à l'époque, c'est « Nous ne sommes pas des Italiens, ce n'est pas notre culture, on ne s'assoit pas sur les terrasses devant les cafés. C'est sombre et froid la moitié de l'année. » C'est qui le Danois le plus connu? C'est Hamlet. Et il reste à l'intérieur. Il n'aime pas se pavaner sur les rues. Mais un des évangélistes du modèle Copenhague aime dire à l'époque, les cultures sont différentes partout au monde, mais les personnes sont les mêmes. Les personnes vont s'asseoir dehors ensemble si on leur donne des beaux espaces publics. Donc, l'intégrité de l'espace public était la première composante du modèle de durabilité de Copenhague. Ils ne connaissaient même pas le terme durabilité à l'époque, mais en enlevant les voitures, les vies devenaient meilleures. C'est devenu le réseau le plus grand pour la circulation piétonne en Europe, qui s'est faite rue par rue. Comme vous pouvez le voir, les Danois, comme les Italiens, comme les Canadiens, aiment s'asseoir dehors et passer du temps avec les autres. Surtout dans les cultures nordiques, où nous sommes forcés à rester à l'intérieur pendant la moitié de l'année. Ici, c'est une photo d'une journée froide au mois de mai, et c'est peut-être proche de 0 degré Celsius. Il y a quand même beaucoup de personnes qui circulent à vélo. Les propriétaires de cafés de Copenhague vont sortir des couvertures qui sont subventionnées par les fabricants de bière. Donc, il y a peut-être des logos de bière sur des couvertures, mais qui sont offertes gratuitement par les commerçants pour que les personnes puissent rester là. En enlevant les voitures, Copenhague s'est rendu non seulement compte que les personnes aiment rester assis là, mais on peut utiliser l'espace urbain d'une autre façon. Si on ne le cède pas entièrement à la voiture. Donc, ils ont créé de l'espace réel pour d'autres formes de moyens de transport. Il y a des trains, mais on admire aussi Copenhague pour ses pistes cyclables. 35% de la population de la ville de Copenhague et plus de 50% des citoyens du centre-ville de Copenhague font leurs emplettes en vélo. C'est pas parce que les Danois sont nés sur des vélos, mais c'est à cause de l'infrastructure dont ils profitent pour faire du vélo. C'est une piste cyclable réelle à Copenhague. Et il y a des choses uniques pour la culture du cyclisme. Vous voyez, il y a une légère différence d'hauteur où la piste cyclable est plus élevée que la chaussée, donc les cyclistes savent exactement où leur voie est. Il y a aussi un obstacle pour empêcher les autos d'empiéter sur la piste cyclable. Les cyclistes, ici, peuvent s'habiller de façon normale. Ils n'ont pas besoin d'avoir un équipement spécial. On peut voir qu'ils n'ont pas de vélo particulier. Ce sont seulement des vélos urbains pour faire ces déplacements urbains. Donc, si on a l'infrastructure adéquate et si on donne un récit pour qu'on se déplace autrement qu'en voiture, les citoyens s'approprient rapidement ce moyen de transport. Et le modèle de Copenhague a été répandu ailleurs au monde, même dans des environnements de banlieue à Copenhague. Si on prend les trains de banlieue jusqu'à la fin de la ligue, ce que j'ai déjà fait, et parfois je vais regarder à Google Maps et je vais me dire, c'est seulement 1 km et on doit traverser 3 km et on sent qu'on est dans un territoire interdit. Mais à Copenhague, on a même fait un très bon urbanisme pour le dernier kilomètre du déplacement. C'est un environnement accueillant même au bout de la ligne du train de banlieue. Et c'est un modèle de durabilité. C'était en se posant la question, quel type de ville souhaitons-nous avoir? Dans quel type de ville souhaitons-nous vivre? c'est une conversation qui a déjà été entamée en Amérique du Nord. C'est un peu différent à cause de l'échelle et les problèmes de conception sont totalement différents. Mais nous avons l'approche de rue par rue, quadrilatère par quadrilatère. Les premières lignes que nous avons tracées là-dedans, c'est dans cette communauté dans le sud de la Floride, à Seaside, en Floride. C'était un des premiers quartiers qui a été construit dans, selon les nouvelles normes d'urbanisme. Ce qui est remarquable de ce projet en Floride, lorsque le nouvel urbanisme a commencé dans les années 80, beaucoup des immeubles avaient de l'art ancien, ça ressemblait à un décor un peu artificiel. Si bien qu'on a filmé le Truman Show à Seaside en Floride, puisque ça ressemblait à un décor de Hollywood. Mais ce qui est important, c'est de voir la nouvelle conception d'une rue. Pensez à une rue sécuritaire en milieu de banlieue. Ici, les voitures sont permises. Mais si on conduit ici à plus de 20 km/h, on va se sentir comme un fou furieux. Tout a été conçu pour limiter les vitesses de déplacement en véhicule. Les véhicules peuvent circuler, mais les véhicules ne sont motorisés ne sont pas la priorité. Et lorsqu'on passe ça ici, à Seaside, en Floride, les enfants jouent dans les rues, les personnes jasent dehors ensemble. Et si nous avons commencé à concevoir les villes de cette façon depuis une génération, on commence à tirer des leçons sur ce qui fonctionne. Moi, je pense que c'est un des meilleurs accomplissements du nouvel urbanisme. Ici, c'est le nouveau centre-ville de Lakewood, Colorado, qui est proche de Denver. Lakewood était une banlieue, mais n'avait pas de centre-ville. Et dans cette scène, c'était la façon dont on construisait toutes les centres-villes avant qu'on ait des voitures. Et avant, ici, c'était le stationnement d'un centre d'achat qui était en faillite. Mais à l'écoute, ils ne sont pas demandé comment rendre le centre d'achat plus efficace ou comment rendre le centre d'achat plus attrayant. Ils se sont demandé comment on peut vivre une ville où il fait bon vivre. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un centre-ville. Les villes ont besoin de centre-ville. Et ce qui est bien, lorsqu'on a les bonnes personnes pour prendre des décisions, ce qui était le cas à l'école, ils avaient des budgets de quelques milliards de dollars. Et c'est un grand moteur de changement. Mais beaucoup des choses qu'on doit faire pour réparer nos villes n'auront pas ces grands budgets et cette grande volonté. À Montréal, il y a des grands projets d'infrastructure, mais ces choses sont orientées vers les anciens problèmes et essayent de régler les anciens problèmes légèrement, comme la rénovation d'un pont. Mais si vous voulez vous impliquer dans ces questions, avant d'avoir les grands projets d'infrastructure, on a vu la deuxième vague du nouvel urbanisme, qui est un peu plus toxique. Ce qui ne règle pas le problème de la gigatonne du jour au lendemain, mais ce sont des catalyseurs de changement et amènent le récit de la ville dans laquelle nous voulons vivre. Et je vais vous parler de cet urbanisme tactique comme mouvement. Ce qui a commencé de façon un peu éparpillée dans les villes avec des interventions dans le mobilier urbain. Voici un bel exemple. Une des installations pour la journée du stationnement à San Francisco. La journée du stationnement était une intervention non sanctionnée pour se réapproprier dans une journée quelques espaces de stationnement un peu partout dans la ville pour démontrer juste pendant une journée combien on peut mieux faire avec cet espace public. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce ne soit pas tout le monde qui se sente obligé de rentrer dans leur voiture pour répondre à leurs besoins quotidiens? C'est un ancien conteneur qui a été transformé en petit parc pour la journée. Et ça a tellement bien réussi, la ville de San Francisco a décidé de sanctionner ces pratiques. Ce qui a mené à le même point, c'est-à-dire qu'en abandonnant une place de stationnement ou deux, ici et là, on peut en faire beaucoup plus pour rendre la ville plus agréable. Ce n'est pas pour bannir entièrement la voiture, mais plutôt pour montrer que ce n'est pas toujours la priorité dans la conception des villes. Voici un autre exemple de Halifax, la rue Argyle, où il y a plusieurs cafés et bars du centre-ville d'Halifax, qui ressemble à la rue Crescent ici à Montréal. Et durant les mois d'été, ils installent ce trottoir temporaire, ce qui élimine à peu près une douzaine de places de stationnement. Ils mettent un trottoir temporaire, ce qui récupère beaucoup d'espace pour les terrasses. Et on voit la clôture un peu ridicule. J'en parle. Parfois, on surréglemente les environnements urbains. Les villes en Europe n'ont pas besoin de ces barrières sans que cela mène aux personnes qui se promènent avec un verre d'alcool à la main. Bon, c'est mon propre problème personnel, mais c'est une initiative qui fonctionne. Et si on peut rassembler ces initiatives ensemble, on peut avoir une initiative de rue complète et de montrer à quel point cet espace public peut être précieux. Et l'histoire vraiment extraordinaire commence avec un de ces quartiers qui n'est plus prospère. Ici, c'est un quartier de Dallas, au Texas. Et à l'époque, il y avait des tramways qui desservaient ce centre-ville. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a enlevé les tramways. C'est devenu un milieu urbain orienté vers la voiture. Et étant donné à cause de l'intégration forcée des commissions scolaires, il y a eu un abandon de cette partie de la ville avec un taux de criminalité effarant dans les années 80-90, mais au cours des 10 dernières années, il y avait des beaux vestiges urbains, des belles façades de commerce, mais ce qui est arrivé dans les années, la ville avait tout fait ce qu'elle pouvait pour que cette rue échoue. En abandonnant cette rue à la circulation à haute vitesse, lorsque l'atelier de l'eau a ouvert, et on pouvait seulement ouvrir des commerces du côté droit car le côté gauche était zoné industriel commercial, donc il était impossible d'avoir une boutique de vente au détail. Mais un petit groupe de revitalisation commerciale s'est demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour le quartier de Oak Cliff. Et s'il est allé voir la municipalité, dire, on aimerait peindre une piste cyclable, on voudrait avoir un peu de place de terrasse et on va réduire la rue de deux voies. Ils savaient que ça ne fonctionnerait pas. Donc, ils ont eu un permis de festival d'art. Et les installations s'appelaient le meilleur bloc. Donc, l'installation artistique était une façon de se réapproprier l'espace de rue. Ils ont fait cet aménagement pour moins de 1 000 $ sans un professionnel et des personnes qui ont fait des dons d'arbres qu'on pouvait reprendre à la fin de la journée. Les organisateurs ont peint la piste cyclable eux-mêmes et ils ont changé la conception du centre-ville avec cette initiative. C'est ce qu'on peut en faire avec cette reprise tactique du paysage urbain. Ça ne règle pas les problèmes à long terme, mais pour cette communauté, cela a pu changer la conversation. On ne parle pas de la façon de comment on peut en faire plus avec moins, mais on se demande plutôt comment on peut rendre nos rues plus fonctionnelles, comment on peut avoir une communauté plus vibrante, comment peut-on augmenter l'enthousiasme par rapport à la vie dans cet environnement urbain. Et c'est devenu un élément de la génération du millénaire. Ils l'ont documenté. Il y a une vidéo sur YouTube qui résume cette initiative. Il n'y a presque pas de dialogue. Et on peut voir la situation se déroule. C'est devenu viral comme pratique qui s'est répandue un peu partout dans les villes aux États-Unis. On voit que c'est un dépliant pour un projet Better Block à Fort Lauderdale. En haut à droite, c'est Oklahoma City. L'autre image en bas, c'est à Wichita, au Kansas. Et on ne parle pas nécessairement juste de San Francisco, une petite enclave urbaine. Je parle plutôt de villes du Midwest qui ont des problèmes chroniques de dépendance à la voiture, qui ont vu ces interventions urbaines. Et ils mettent la table pour cette plus grande conversation sur comment construire tous les autres éléments urbains de façon durable au 21e siècle. Ce qui est très bien, c'est que certains de ces outils sont déjà disponibles ou sont en train d'émerger pour faire des choses vraiment remarquables dans la conception intelligente de nos villes. J'ai eu l'opportunité l'année dernière de participer à la remise de prix de changement climatique C40, ce qui a commencé par le maire Bloomberg, M. Johnson aussi de Londres, qui partagent les meilleures pratiques, en fait. Deux des conclusions, les villes mènent ces initiatives et beaucoup de choses se font au niveau municipal. Et deuxièmement, les villes ne veulent pas attendre une solution qui vient du haut, mais les municipalités préféraient mener leurs propres initiatives. Et je voulais vous montrer cette image. Le cristal Siemens, qui est le grand géant industriel allemand qui a construit ceci. Il se dit sur la rivière Thames à Londres, la Tamise à Londres, c'est-à-dire. Et ils ont construit ceci sur la Tamise, car une grande partie de l'entreprise Siemens est fondée sur la façon dont on doit rénover l'infrastructure de nos villes, le faire de façon durable, surtout avec de l'électricité écologique. Et Siemens est l'entreprise qui mène l'avant ses efforts. Et ils sont conséquents avec leur philosophie. Ils organisent un salon commercial chaque année dans leurs infrastructures sur la Tamise à Londres pour remettre des prix aussi. Siemens n'est pas bien connu ici, mais Siemens fait tout entre construire des systèmes LRT ou des systèmes de transport de gestion rail et construisent des capteurs que l'on utilise pour mesurer sa circulation. Siemens a des grands projets de transport par rail à Londres. Imaginez comment c'est complexe. Il y a beaucoup d'ingénieurs ici dans la salle. On crée des infrastructures modernes de rail. Imaginez le faire au centre-ville de Londres. Mais c'est ce que Siemens fait en ce moment. Je voulais prendre un exemple qui pourrait être inspirant pour Montréal. C'est une ville qui a gagné le prix de Siemens, Bogota. Bogota a déjà ouvert la voie pour des initiatives innovantes, peu coûteuses pour le transport public, avec le modèle d'autobus rapide. Il y a un problème unique en Colombie. La vaste majorité de leur électricité est l'hydroélectricité, qui est peu coûteuse. Et c'est un beau problème à avoir. C'est aussi le problème du Québec. Et ce que Bogota a décidé de faire, c'était, au lieu d'essayer de réduire légèrement les émissions du parc des véhicules de transport en commun, il serait peut-être judicieux d'électrifier les transports en commun, incluant les autobus. Un des problèmes de la ville de Bogota, ils sont prêts à faire des appels d'offres pour ces autobus électriques. Mais il n'y a pas de fabricant d'autobus électriques à 100%, du moins dans la quantité dont nous avons besoin. Il y a un problème de conception de l'ingénierie et un marché qui attend de se faire desservir. Et il y a plusieurs entreprises qui sont à la course pour essayer de répondre à ce besoin de la ville de Bogota. Le dernier morceau du casse-tête qui nous apporte à la proposition de valeur dans cette nouvelle ère d'urbanisme provient de la façon dont on fabrique et on distribue l'énergie dont nous disposons. Nous avons des scénarios très pessimistes, mais imaginez que nos modes de survie se maintiennent pendant un autre 50 ans. Il y a des économies qui ont commencé à trouver d'autres solutions. Ils ont trouvé que en se défaisant du modèle actuel, ils trouvent de nouvelles opportunités. Donc, je vais terminer ma présentation parlant du Danemark. Car au Danemark, il y a une des plus grandes consommations d'énergie éolienne par habitant. Et l'objectif du pays, c'est d'avoir 50% de leur réseau d'électricité qui provient d'énergie éolienne. Ils ont établi leur objectif pour 2025. Et lorsque le gouvernement danois a commencé à envisager cette solution, ils se sont rendus compte que l'énergie éolienne ne pourrait pas fournir 50% de l'électricité dans le réseau de distribution, étant donné que le vent ne souffle pas toujours. Il faut entreposer l'électricité lorsqu'il y a des pointes de vent. Donc, l'Université du Danemark et quelques entreprises privées se sont impliquées dans ce projet. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas répondre à ce problème avec l'entreposage en source unique. Mais si on présume qu'il y a un grand système distribué de batteries et on s'imaginait d'avoir 100 000 véhicules électriques sur la route en 2025, ils ont regardé la solution. Ils sont en train de créer ceci à l'échelle, à une petite échelle, sur une petite île, avec une économie surtout agricole et touristique. Et 50% de l'électricité provenait de l'énergie éolienne. Et voici la conception de base. On a l'énergie éolienne. Le vent est souvent plus fort le soir. Donc, on a le vent qui recharge les voitures la nuit. Donc, et les voitures sont utilisées pendant le jour et elles sont rebranchées sur le réseau. Et ces voitures peuvent alimenter l'énergie lorsqu'elle est nécessaire pendant le jour. C'est un projet qui a commencé il y a 7 ans. Le seul problème qu'ils ont rencontré d'un point de vue technique, c'est qu'il n'y a pas assez de véhicules électriques qui sont fabriqués en ce moment. Mais tout le reste a été fait. Et je vous dis, ça fonctionne sur cette île danoise. Il y a maintenant 1900 maisons qui ont ces bornes. Ils ont apporté beaucoup de véhicules électriques pour montrer que d'un point de vue de conception, on peut recharger un véhicule électrique et puis après ça s'en servir comme batterie d'entreposage d'énergie. Mais en même temps, il y a d'autres opportunités intéressantes. Une des autres choses qu'ils ont découvert ici, c'est dans la plus grande ville de l'île, le Bornholm. C'est une résidence typique danoise qui a le réseau de distribution d'électricité intelligent. Pour prouver que ça fonctionne. Il y a toutes sortes de choses remarquables. Et si vous souhaitez m'en parler en personne, je serai heureux de vous en parler. Je vais vous parler des spécifications d'ingénierie. On regarde le prix de l'énergie et l'offre et la demande d'énergie en temps réel par étape de 5 minutes. Si on avait un réfrigérateur intelligent, et pour nous, tout ce qu'on veut, c'est que le réfrigérateur garde les aliments froids. Mais peut-être que le réfrigérateur pourrait utiliser son énergie lorsque le coût de l'énergie est le plus faible et de s'abstenir lorsque le coût de l'énergie est plus élevé en étape de 5 minutes ou par période de 5 minutes à la fois. Ici, on veut utiliser des batteries de voiture comme système d'entreposage d'électricité, mais lorsque les batteries de voiture ne sont pas disponibles, il fallait trouver d'autres solutions. On pourrait entreposer l'énergie éolienne pour chauffer les maisons. Et ici, c'est une fournaise qui fonctionne avec l'énergie entreposée pour chauffer la maison. Et ce qu'ils ont vu, je vais vous l'avouer, je ne suis pas ingénieur, je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais l'ingénieur qui m'en a parlé était tout à fait enthousiaste par rapport à cette idée. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des fonctions. Certaines des fonctions les plus dispendieuses dans le réseau de distribution, c'était de trouver les balances de charge dans les réseaux de distribution. Et on devait le faire dans le commandement et le contrôle centralisé. On peut le faire avec système distribué tout à fait gratuitement, car on peut juste transférer les charges d'énergie d'un endroit à l'autre lorsque c'est nécessaire. Je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais ils se sont rendus compte que ça fonctionnait et qu'il y avait des belles économies avec ce système. Et ils se sont rendus compte que cette solution pouvait simplifier la gestion de distribution électrique. Ce qui nous amène vers la proposition de valeur pour les résidents urbains de l'avenir. Et je vais faire des projections d'ici 2023. En 2023, je crois sincèrement que dans des régions du Danemark et ailleurs, qu'il sera possible de vivre dans une configuration comme celle-ci. Voici les trois composantes du modèle. Premièrement, on a une maison qui génère une partie de son énergie dans ce cas en particulier. C'est un quartier à l'extérieur de Fribourg en Allemagne qui utilise l'énergie solaire. Ici, c'est un immeuble à logements multiples qui compte 58 logements. Et ceci génère une empreinte négative car il y a des surplus qui sont renvoyés dans le réseau de distribution électrique, ce qui peut être payant pour les habitants. Mais bon, imaginons qu'on est proche d'un net zéro. On vit dans des maisons plus efficaces avec les technologies du réseau de distribution intelligent. On utilise des systèmes que Addison ne reconnaîtrait même pas lui-même, à cause que les appareils peuvent décider d'utiliser l'énergie seulement lorsqu'elle est à son plus faible coût. Ceci pourrait être intégré avec différentes applications de téléphone intelligent. Vous pouvez faire vos cycles de votre lave-vaisselle ou de votre laveuse pour les partir juste quand c'est plus judicieux. Et la troisième composante, ce qui me prouve pourquoi on pourrait y parvenir dans 10 ans, c'est que même si on n'a pas beaucoup de véhicules électriques en ce moment, il y a des éléments qu'il y a 10 ans auxquels on ne songeait pas. Il y a 10 ou 12 ans, durant un salon de véhicules électriques, on nous avait invités à aller au circuit Gilles Villeneuve et je faisais la couverture pour la revue Times et on assistait à une voiture électrique de la nouvelle génération. Il y avait le prototype de la Prius et de la Nissan Leaf et Ford avait un véhicule qui rejetait de l'eau propre et c'était la vedette du salon de véhicules électriques. Mais bon. C'est pas ça qui est arrivé, mais à cette époque, personne, durant ce salon des voitures électriques de l'avenir, a dit que vous savez quoi? Il y a un entrepreneur qui va créer une entreprise à partir de rien et qui va aussi concevoir une des voitures les plus rapides au monde qui est entièrement électrique. Et la proposition de valeur est si bonne que les personnes vont vouloir avoir une voiture électrique qu'il branche la nuit, d'utiliser l'énergie lorsque c'est plus coûteux, de rebrancher leur véhicule aussi dans le réseau de distribution et redonner l'énergie lorsque le réseau de distribution en a besoin. Et je pense que cette proposition de valeur, combinée avec certaines des initiatives dont j'ai parlé, sera si attrayante que beaucoup de choses qui semblent comme une montagne de problèmes deviendront plutôt comme l'avenir radieux auquel tout le monde aspire. C'est un avenir qui ne se fera pas sans effort, mais nous avons fait de beaux progrès. Nous en sommes rendus à un point où il y a des choses qu'on n'avait même pas imaginées sont en train de se produire dans une île au Danemark. Ce qui explique le bond gigantesque que nous ferons initiative par initiative, qui nous amènera à un endroit plus beau que celui où nous sommes en ce moment. Je vous incite à visiter mon site web. Vous pouvez me partager vos commentaires par courriel, par Twitter. J'aimerais connaître vos histoires, vos anecdotes. J'aimerais connaître vos aspirations. Il y a beaucoup plus d'expertise ici dans la salle sur tous ces sujets. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi et je vous remercie de votre temps et de votre attention ce soir. Merci.